Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et on continue à évoquer ce durcissement du ton du président de la République au sujet de l'immigration, alors qu'Édouard Philippe lance aujourd'hui une consultation autour du futur projet de loi sur l'immigration, alors que le cap des 100 000 demandes d'asile a été franchi en France en 2017. Nous sommes en compagnie de Patrick Veil, qui est directeur de recherche au CNRS, rattaché à Paris 1 et professeur invité à l'université de Yale. Vous avez notamment publié, Patrick Veil, Le sens de la République aux éditions Grasset. Parmi les différentes questions qui se posent et les débats qui émaillent la discussion de ce projet de loi, il y a la notion de pays tiers sûr. Elle mérite qu'on s'y arrête, que vous nous expliquiez en quoi consiste cette notion.
Donc la France a signé, a été un négociateur de la Convention de Genève qui protège le réfugié politique une fois qu'il est admis sur le territoire. Qu'il est sur le territoire, la personne qui demande l'asile a le droit d'être protégé si ce statut de réfugié lui est reconnu. Puisque nous sommes dans l'Union européenne, nous avons passé des accords avec nos partenaires, membres de l'Union, pour dire, au fond, nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes dans le même bateau, si l'on peut dire. Donc si quelqu'un vient d'un pays de l'Union, et c'est pour ça qu'on a les accords de Dublin, c'est un pays sûr, évidemment, les autres pays européens. Donc la demande peut être, nous déléguons quelque part la gestion de la Convention de Genève à ces pays. Ce que voulait faire M. Macron, c'est de dire, on va étendre ces désignations de pays sûrs, sans d'ailleurs leur demander leur avis, à des pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Et la cible prioritaire, c'était le Brésil, puisque, comme vous le savez, nous avons une frontière avec le Brésil. La Guyane a une frontière avec le Brésil. Alors, c'était en fait remettre en cause le principe de l'asile, c'est que quelqu'un arrive, on lui demande pas d'où il vient, on lui demande d'où il vient, mais ce que je veux dire, c'est qu'on traite cette personne par rapport à sa situation de persécution. Et on avait fait une exception pour les pays européens, mais sinon on supprimait le droit d'asile. On déléguait à tout le. On n'avait plus de droit d'asile en France. Bon, j'ajoute que si on le faisait avec le Brésil sans lui demander son avis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous raccompagnez au Brésil des gens dont vous pensez qu'ils viennent du Brésil, vous n'ont plus de papier. Si les Brésiliens disent prouvez-nous qui viennent du Brésil, ils ne les reprennent pas. Donc ça ne servait strictement à rien. Là encore, je reviens je dirais ce que je disais tout à l'heure, ça n'est que par la coopération. Ça n'est que par les bonnes relations avec le Brésil, notre voisin en Guyane, qu'on y arrivera. C'est pas en faisant des règles, nous, Français, on décide que. Bon. Donc finalement, cette proposition a été abandonnée. Mais attention, faut toujours se méfier. Il y a une négociation en ce moment d'un règlement européen sur le sujet. Et il ne faudrait pas qu'après avoir annoncé qu'il ne mettait pas dans le projet de loi ce dispositif de pays tiers sûr, M. Macron le réintroduise dans le règlement européen qu'on serait ensuite obligé d'appliquer. Voilà, donc je pense qu'il a bien fait de le retirer et j'espère qu'il ne va pas nous le refourguer par le règlement européen.
Alors, vous parlez de coopération européenne, mais on voit bien que depuis quelques années, et ce n'est pas lié à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, depuis quelques années, la France ne remplit pas, tout l'accueil dont elle serait capable si on compare ce qui est fait dans d'autres pays européens. Et donc, on n'a pas affaire à une inflexion. Comment vous expliquez cela, Patrick Veil?
Vous savez, je vais même vous dire quelque chose. Vous savez combien d'étrangers viennent en France tous les ans? Entre 80 et 100 millions. Parce que nous sommes le plus grand pays de tourisme au monde. Et sur ces 80 à 100 millions, il y a quelques dizaines de milliers qui restent sans y avoir été autorisés. On est 66 millions. On est content. Toutes nos entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, de tout le secteur qui sont contents de voir tous ces gens arriver et repartir. Donc, on est très bénéficiaire de l'attractivité de la France. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que on est là à être obsédé par quelques milliers de personnes dans le Calaisis, qu'on est, il semble que nous, qui semble mettre en cause notre l'État, la société, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je crois qu'on ne va pas bien, qu'on ne se sent pas bien en nous-mêmes. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, dans des conversations qu'il a avec des maires, dit ça. Il dit, et monsieur Valls, quand il était ministre ou premier ministre, est allé, a eu le culot, je dirais, et je dirais presque de façon un peu insultante, d'aller déclarer à Munich que madame Merkel n'aurait pas dû accueillir les réfugiés syriens. Et pourquoi l'a-t-il fait? C'est parce qu'il a associé ces réfugiés syriens, de par leur culture, de par éventuellement leur religion, à des compatriotes aussi, qui peuvent être aussi de la même culture, c'est-à-dire de culture musulmane.
C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que finalement, tout cela révèle notre problème avec la laïcité, avec...
Non, c'est-à-dire que cela, si vous voulez, je sais que au plus haut niveau de l'État, il y a des personnes qui disent on ne peut pas accueillir des réfugiés. S'ils étaient venus d'Europe, nous n'aurions pas eu la même réaction que le fait qu'ils viennent de la région du Moyen-Orient. Bon. Alors que le droit d'asile s'applique indépendamment, et bien sûr, de la couleur de peau, de la religion, etc. Donc il y a un vrai sujet qui est qui sommes-nous? Comment fait-on nation? Et le président de la République a évoqué ce sujet devant les autorités religieuses. Et puis il a annoncé qu'il ferait un grand discours sur la laïcité. Il aurait dû le faire le 9 décembre à l'occasion de la journée de la laïcité. Il l'a reporté et puis là il vient d'annoncer qu'il ne ferait pas de discours sur la laïcité. Et je suis un peu bouleversé de cela. Parce que je pense qu'on a vu ces derniers jours ce débat sur la laïcité prendre des tournures un peu absurdes avec des
Pourquoi
gens qui... Parce que ce sujet-là semble nous diviser alors qu'il devrait complètement nous unir. La loi de 1905 n'est pas, contrairement à ce qu'a dit M. Macron, une loi, je dirais, laïcarde, une loi qui est anti-religieuse. C'est une loi de respect d'un principe fondamental qui est la liberté de conscience individuelle. Tout est organisé autour de cela. C'est-à-dire que la loi dit, pour garantir cette liberté de conscience, l'État est neutre pour qu'il ne soit pas dominé par une religion ou que même il n'impose une approche anti-religieuse. L'État est neutre. Il y a des lieux de culte dans lesquels peuvent bien sûr exister les cultes et les fois. Et puis, il y a l'espace domestique dans lequel vous faites ce que vous voulez. Bon. Et puis, il y a le reste qu'on organise par la loi. Donc, si vous voulez, la liberté de conscience, c'est le fondement de la laïcité. Et elle respecte aussi bien le croyant que le non-croyant. Et ce respect est si fondamental que la loi prévoit que, en cas de pression sur vous... la personne qui fait pression sur vous peut être condamnée à une peine de prison. C'est rarement évoqué, cet article 31 de la loi 1905. Donc tout est organisé autour de ces libertés. Et vous avez vu dans ces derniers jours, à l'occasion de ces commémorations, bien sûr, de ces événements atroces qu'ont été les attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Kacher, il y a eu une déclaration de la ministre de l'Enseignement supérieur qui n'était pas si maladroite que cela, mais à qui on a répondu « Mais vous ne savez pas qu'on a le droit de manifester, que la religion peut se manifester. » Oui, la religion peut se manifester sauf si elle porte atteinte à l'ordre public, mais aussi à l'ordre privé. C'est-à-dire que si on fait pression sur vous, vous ne pouvez pas, c'est interdit. Et cette pénalité dont je parlais tout à l'heure s'applique. Donc, moi, je suis frappé de cela, de la méconnaissance du fait que la laïcité...
C'est une méconnaissance ou d'après vous, c'est une tentative d'instrumentaliser les choses?
Non, je pense qu'il y a une méconnaissance. Vous voyez, par exemple, regardez, encore une fois, je reprends, parce que c'est le président de la République qui aurait dû incarner cette unité. Et donc, il a quand même fait un discours devant les autorités religieuses, et il a dit, vous voyez, on a un problème, parce que la loi 1905 ne concernait pas l'islam. C'est faux. la loi 1905.
Parce que lui, il pensait à l'Algérie. Et
non, mais justement, il ne pensait pas à l'Algérie. L'Algérie, la loi 1905 s'appliquait à l'Algérie. Tout ça pour dire, il y a une telle méconnaissance du sujet que j'ai une autre casquette. Je suis président d'une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières, qui fait des cours de maths, 3 millions d'usagers avec la Khan Academy, et on a décidé, après les attentats de Charlie, de faire des petites vidéos pour expliquer la laïcité. Et je peux vous dire que ces vidéos, elles sont fantastiques. Elles sont pour les profs, elles sont pour les élèves, elles sont pour les parents. On peut les trouver sur un site qui est questions au pluriel, -réponse pluriel, laïcité.fr. Elles sont formidables, elles expliquent le droit de la laïcité. Une fois qu'on a compris ce droit, on peut ne pas être d'accord. On peut dire par exemple, il y a trop de... Je suis un peu gêné parce que la religion est en train de gagner les esprits. Mais si la religion gagne les esprits, alors il faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de pression sur les gens, parce que ça c'est illégal. Mais après tout, vous pouvez croire de plus en plus, penser que Dieu est la solution à vos problèmes. Ben, à ce moment-là, ce qu'il faut faire... C'est enseigner la philo, enseigner l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, et là, nous avons une responsabilité collective. Nos compatriotes, on a une vidéo là-dessus, justement. Pourquoi dit-on les musulmans? Est-ce qu'on dit tous les jours les juifs, les catholiques, quand on parle de certains de nos compatriotes? Il y a eu un terrible étude de l'Institut Montaigne, biaisée, l'année dernière, dont j'ai montré les biais. Tout Français se sent d'abord pleinement français dans sa nationalité, et puis se sent part de l'histoire de France. Et puis éventuellement, s'il le veut, il est croyant ou non-croyant. Mais à nos compatriotes de culture musulmane, parfois, on n'est pas sûr de leur nationalité, ou on en doute, ou on la met en
cause. C'est pour ça qu'on parle de musulmans, selon vous. On dit les musulmans parce que, finalement, on leur dénie.
Et on ne leur donne pas une place dans notre histoire, parce que si Monsieur Macron a vu des bons cours d'histoire sur la laïcité, il saurait qu'elle s'appliquait à l'Algérie. Et la seule identité qu'on leur accorde, c'est la religion. Alors moi, je dis la chose suivante. Il faut qu'à l'école... on enseigne d'abord l'histoire de France globale, c'est-à-dire l'histoire, parce que ça c'est factuel.
Qu'est-ce que c'est l'histoire de France globale?
C'est-à-dire que l'histoire de... qu'on n'oublie pas l'Algérie quand on parle de la loi 1905, par exemple. J'ai un collègue, jeune collègue, Rabih Rachi, qui a écrit des articles sur ce sujet, comment la laïcité, la loi 1905 s'appliquait à l'Algérie, ensuite elle a été suspendue. Ça cesse. On peut trouver les... On peut... Bon,
non mais ça c'est très bien pour la loi de 1905, mais
c'est
par
pareil.
Exemple, Emmanuel Macron, lui, parlait d'une radicalisation des laïcs, et dans un discours face à des responsables religieux...
Non, il disait la radicalisation de la laïcité, ça ne veut rien dire, parce que...
Pour lui, ça voulait dire finalement
une
capacité de renvoyer dos à dos, par exemple.
Oui, mais vous voyez, est-ce qu'un Américain dirait qu'il y a une radicalisation du premier amendement? Ça ne veut rien dire. Vous pouvez dire, il y a une radicalisation des laïcars, ou de ceux qui sont contre la religion, ou d'un courant anticlérical. Mais la laïcité, c'est du droit. Vous voyez, attention, c'est l'organisation juridique du statut de la religion en France, avec un seul objectif, garantir notre liberté individuelle de conscience.
Alors admettons que la langue du président de la République est fourchée, peut-être voulait-il parler d'une radicalisation du camp laïque. Est-ce que vous la constatez, Patrick Veil?
Alors on peut la constater. Vous voyez, il peut y avoir des incompréhensions. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai un de vos collègues, d'ailleurs, qui m'appelle en me disant... Ma femme a un problème, elle est institutrice dans son école. Les enfants vont partir 15 jours en vacances scolaires. Est-ce que, comment tu sens, l'un des enfants veut prendre son tapis de prière? Je dis, au début il me dit pas combien de temps. Je dis combien de temps? 15 jours. Ben, je dis 15 jours. Ça veut dire 15 nuits. Si cet enfant fait sa prière le soir, il a le droit de faire sa prière. En dehors des heures de l'école. Si on l'emmène en voyage pendant 15 jours et qu'il a l'habitude de faire sa prière, on ne va pas l'empêcher de faire sa prière. Or, il y avait des enseignants qui disaient « Ah ben c'est un voyage scolaire, on va le... » Il n'a pas... Mais c'est absurde. Moi-même, je dois dire, personnellement, j'étais croyant quand j'étais enfant, je faisais ma prière le soir, j'aurais été fondamentalement brutalisé si on m'avait empêché de faire ma prière. Donc vous voyez, il y a quand même, il peut y avoir aussi, de la part de personnes de bonne volonté qui comprennent pas les règles de cette liberté de conscience qui est assurée diversement selon les espaces. Dans l'espace scolaire est laïque. Donc là, il n'y a pas de présence du religieux. Mais le soir, si vous organisez un voyage et que vous emmenez les enfants et que vous les faites dormir dans un lieu de voyage scolaire, ben vous les laissez être ce qu'ils sont par la transmission familiale. Et il viendra un jour, quand ils deviendront adolescents ou adultes, où ils se feront leur propre chemin, eu égard à leurs croyances.
Et dans ce que l'on a appelé la guerre entre les deux gauches, autrement dit, entre une sensibilité incarnée par Mediapart et l'autre qui aurait été incarnée par Charlie Hebdo, au sujet donc de la question religieuse, est-ce que vous voyez un véritable hiatus ? Est-ce qu'il y a deux manières d'appréhender le fait religieux, selon vous, à gauche ?
Mais je crois que ce qui est fondamental, c'est que il y a quelque chose qui peut unir Mediapart et Charlie Hebdo, les croyants et les non-croyants, c'est la loi de 1905. Et ça, il faut que chacun le comprenne bien. Et franchement, de ce que j'ai vu, de ce qu'a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur, du site du gouvernement basé sur l'Observatoire de laïcité, cette première page, ce site est mal fait. Vous voyez, donc il y a, franchement, de ce que je vois, je suis inquiet. Et alors, je me dis la chose suivante.
Vous êtes inquiet parce que vous trouvez...
Je me suis inquiet parce que nous avons... La loi de 1905, ça a été un travail, je dirais, d'équilibre, de synthèse, de compromis et de sortie de l'affrontement entre différentes approches eu égard à la religion. Elle est méconnue. Elle est perturbé par ces débats absurdes, ces incompréhensions développées en public par les plus hautes autorités de l'État, par les sites officiels, etc. Et donc, moi, je vous dis la chose suivante. La République, elle nous appartient à chacun d'entre nous. La laïcité, si les ministres ou les présidents de la République ne savent pas en parler, on peut nous en parler, en lisant la loi de 1905 et en l'interprétant. C'est ce que j'ai voulu faire avec mon association. Il faut qu'on se prenne en main. C'est un joyau, parce qu'il y a très peu de pays où on traite également le croyant et le non-croyant. Donc une fois qu'on est d'accord là-dessus, après, vous pouvez avoir des interprétations. Vous pouvez avoir Charlie, par exemple, ils défendent la laïcité, mais ils sont aussi anti. Ils n'aiment pas trop la religion. Ils ont le droit. C'est leur liberté d'opinion, c'est la liberté de la presse qu'ils exercent. Ils respectent la laïcité. Ils respectent les croyants, mais ils ont le droit de les critiquer, eu égard à leurs croyances. Non pas en tant que personne, mais en tant que... Voilà, ils ont le droit de faire du blasphème. Bon, mais... Et monsieur Plenel a le droit de défendre la place de la religion, s'il le souhaite. Mais ce qui nous unit, c'est une... et je pense que, d'ailleurs, dans leur déclaration, ils sont unis là-dessus. Encore faut-il bien comprendre ce qui nous unit, c'est-à-dire le respect de la liberté de conscience, le refus de toute pression. Et ça, c'est pas très bien compris.
Par les responsables religieux ?
Mais oui, parce que, par exemple, il peut y avoir des pressions religieuses.
Oui, bien sûr. Enfin,
vous voyez,
ça que vous faisiez référence.
Je faisais référence à toute pression. Elles peuvent être religieuses, elles peuvent être anti-religieuses. Et d'ailleurs, l'article 31 dit « Toute personne qui ferait pression sur vous, soit pour vous forcer à exercer un culte, soit pour vous en empêcher, est condamnable par une peine de prison. »
Et à partir du moment où vous considérez donc que cette loi de 1905 est un joyau, pourquoi celle-ci semble aujourd'hui si problématique ? On n'arrête pas d'évoquer peut-être... à tort, la place de l'islam dans le débat sur la laïcité, est-ce que cette place, elle vous paraît si problématique ? L'exemple que vous donniez avec le tapis de prière est finalement assez représentatif, et on n'arrête pas d'évoquer des questions sur le port du voile dans tel ou tel lieu. Est-ce que c'est si compliqué que cela ?
Non, ça n'est pas compliqué. J'ai fait partie de la commission Stasi, qui a proposé, et ça a été adopté par le Parlement, l'interdiction des signes ostentatoires dans les écoles, parce que vous voyez, même, j'enseigne aussi ce sujet-là aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, l'espace scolaire, où nous avons affaire à des enfants mineurs qui ont besoin d'être protégés de toute pression, eh ben, on fait des règles spéciales pour l'espace scolaire. En revanche, par exemple, vous êtes à l'université, imaginez qu'on fait pression sur vous, vous avez 19 ans, 20 ans, vous allez voir un avocat, enfin, vous pouvez vous défendre. Un enfant de 12 ou 13 ans a plus de mal. Donc, je dirais, comme aux États-Unis, avec des méthodes différentes, des modalités différentes, la loi française et la jurisprudence protègent l'espace scolaire contre les pressions.
Mais alors, pourtant, on n'arrête
pas... Et c'est ce qu'on avait voulu faire à la commission Stasi, parce que la vraie raison de l'interdiction des signes ostensibles, qui évidemment visait le voile, c'était qu'il y avait des pressions sur des jeunes filles perçues comme pouvant être reliées à la religion musulmane, et qui ne portaient pas le voile, et il y avait des groupes de garçons qui allaient leur dire « si tu ne le portes pas, alors que tu as le droit de le porter, c'est que tu es une mauvaise musulmane, tu es une pute, etc., on va te faire ta fête à la récré ». Donc si vous voulez, il y avait des pressions qui s'exerçaient, et on a jaugé, et c'était pas facile à décider, à proposer, et le Parlement en a décidé ainsi, que la meilleure façon de supprimer ces pressions, c'était de dire, bon, ben, on supprime la cause de la pression. On a pu le faire aussi, et c'est ça le paradoxe de notre système, c'est parce qu'on sait qu'il y a aussi un système parallèle, qui est le système des écoles privées sous contrat, qui permet aujourd'hui aux jeunes filles qui portent le voile d'aller de facto... en majorité dans des écoles catholiques ou qui doivent les admettre puisque ça fait partie du contrat.
La question, par exemple, des cantines qui ressurgit, et on est sûr qu'à chaque fois qu'elle ressurgit, eh bien, il y aura une polémique à ce sujet. Là, c'est le maire Front National d'une ville qui décide de mettre systématiquement du porc dans les cantines scolaires le lundi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien voilà, c'est quelqu'un qui refuse de tenir compte de la diversité et de la composition de la société française.
Est-ce que ça, c'est loi 1905 ?
Écoutez, la loi 1905 n'est pas rentrée dans le détail. Mais
non, mais
la loi de 1905, vous voyez, dès lors que le fondement de la loi 1905, c'est la liberté de conscience. Vous devez respecter celle de l'autre. Si vous avez la vôtre garantie, chacune de celles des autres doit être respectée autant que la vôtre. Donc vous devez apprendre à vivre dans une société diverse, du point de vue des croyances ou des non-croyances. Et il y a un esprit de la loi de 1905 qui est donc de rechercher ce qu'il y a de commun à tous les Français. Et il y a des mets qui sont communs. Les légumes, les œufs, le poisson.
Bon, le tofu.
Donc vous avez la possibilité d'offrir des mets communs que tout le monde peut manger. Et puis vous pouvez aussi, un ou deux jours par semaine, dire on est divers, donc montrons cette diversité. Offrons du porc, mais comme on sait que certains ne pourront pas, les juifs et les musulmans, manger du porc ou des végétariens, eh bien, offrons une alternative. Voilà ce que c'est que l'esprit de la laïcité. C'est le respect de la liberté de chacun pour faire vivre ensemble, je dirais, le pays.
Nous avons débuté par tentative de compréhension de ce projet de loi sur l'asile et l'immigration. Nous parlons de la laïcité pour conclure. Vous êtes inquiet sur les politiques qui sont menées aujourd'hui et sur la manière dont le gouvernement envisage cette question, Patrick Veil.
Moi, je suis, disons, frustré, parce que je pense qu'on a une magnifique tradition. Vous voyez, un jour, je suis invité à venir présenter mon dernier livre, Le sens de la République, dans un lycée de Marseille. Un prof d'histoire me dit, est-ce que vous acceptez de venir ? Je dis, bien sûr, je viens. Il me rappelle, il me dit, on a consulté le conseil des élèves, ils sont tout à fait pour que vous veniez, mais à une seule condition, c'est que vous ne leur parliez pas de laïcité. Ah bon ? Depuis les attentats de Charlie, ils avaient eu des réunions, on les avait convoqués, des messes en latin, la laïcité, c'est le vivre ensemble, c'était des slogans, il n'y avait pas d'explication. J'ai dit, bien sûr, je viens, comme à leurs conditions, et puis je n'ai parlé presque que de laïcité, et ça s'est très bien passé. Parce que je suis parti d'eux, de chacun d'entre eux, de leur liberté, de leurs droits, et ensuite, on a plus construire ce que c'est. Le vivre, dire la laïcité, c'est la citoyenneté, c'est le vivre ensemble. Non, ça c'est un slogan. Mais on voit bien que si on part de la liberté de conscience et qu'on veut qu'elle soit respectée pour soi-même et donc pour les autres, alors on construit. On dit, bah oui, du coup, il faut vivre ensemble avec, dans la diversité, etc. Et rechercher le commun. Donc, en expliquant bien, on suscite l'intérêt et l'affection. Et aujourd'hui, on a du désintérêt et j'ai bien peur, parfois, un manque d'affection.